Radio Okapi. Okapi.
À la une ce matin, le président de la RDC est à Paris depuis hier. Joseph Kabila Kabange échangera aujourd'hui avec son homologue français François Hollande sur divers dossiers dont la situation politique en RDC. Ouverture aujourd'hui à Goma de la 7e session du comité d'appui technique de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les assises seront présidées par Mary Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Et puis, le PAM réduit ses bureaux en RDC suite à la baisse de ses ressources financières. Son représentant précise par ailleurs que la restructuration ne signifie pas que cet organisme onusien se retire ou se désintéresse des régions où les 5 bureaux sont fermés. Bonjour à tous. En tête à tête aujourd'hui à l'Élysée à Paris entre le président français et son homologue de la RDC. François Hollande et Joseph Kabila Kabange parleront de ce qui se passe en République centrafricaine, de la situation politique en RDC et de la coopération économique. Selon l'AFP, les deux chefs d'État vont échanger en présence de leurs ministres des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Raymond Tshibanda. Michel Kifindangoy.
Les discussions entre Joseph Kabila et François Hollande tourneront notamment autour de la situation actuelle en République centrafricaine. Les autorités françaises et congolaises en sont toutes deux préoccupées. La France du fait de son engagement militaire sur place et la RDC à cause des risques de déstabilisation provoqués par l'arrivée des réfugiés centrafricains sur son sol. Selon un diplomate français, François Hollande présenterait à Joseph Kabila une demande de renforcement du contingent congolais au sein de la MISCA ou à défaut chercher à obtenir l'assurance que les effectifs congolais seront maintenus. La question du rôle que pourraient jouer les entreprises françaises dans le programme de développement de la RDC serait aussi abordée. Mais la France souhaite avant tout une amélioration du climat des affaires en RDC, affirment les sources diplomatiques françaises. Par ailleurs, renseignent les mêmes sources, la situation politique interne de la RDC serait aussi abordée. La France pourrait aussi inviter le président Kabila à respecter la constitution congolaise et de ne pas se représenter à la présidentielle prévue pour 2016, note l'agence France-Presse.
En plus bref, les ressortissants de la RDC devront désormais se munir de leur passeport pour aller au Congo-Brazzaville, en plus du laissez-passer. Ainsi en a décidé la République du Congo. Selon le directeur général de migration à Kinshasa, les autorités brazzavilloises ont saisi verbalement samedi dernier le chef de poste de la DGM au Bitingobila pour lui faire part de cette décision de Brazzaville qui est appliquée depuis dimanche. En revanche, Kinshasa exige des Brazzavillois depuis lundi dernier un passeport estampillé d'un visa pour venir en RDC. Bien plus, les compatriotes désireux de se rendre au Congo-Brazzaville devront se munir aussi d'un visa à obtenir à l'ambassade de ce pays à Kinshasa. Changeons de décor pour aller maintenant au Nord Kivu. Démanteler les groupes armés encore actifs dans la région, réussir le processus DDRRR, améliorer également les conditions de vie dans les zones de retour, tels sont les défis qui restent à relever dans la consolidation de la paix à l'est de la RDC. C'est ce qui a été signifié hier après-midi à la délégation du comité d'appui technique de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en mission à Goma. Les membres de ce comité qui tiennent leur 7e session du 20 au 23 mai 2014 ont voulu s'enquérir de la situation avant le début de leur rencontre aujourd'hui. Tout de suite, le compte-rendu de Sifa Maguru.
Ce qui est important, c'est de gagner la paix. La RDC qui a retrouvé sa stabilité, comment nous devons l'accompagner pour que cette stabilité retrouvée puisse être un facteur de paix durable?
C'est en ces termes que le gouverneur Julien Paluku a exprimé ses attentes vis-à-vis de cette réunion qui s'ouvre ce mercredi. C'était à l'issue de l'audience accordée à la délégation à son cabinet. Sur les plans humanitaires, les déplacés ainsi que les humanitaires ont mis l'accent sur la neutralisation des groupes armés toujours actifs dans les territoires, mais aussi la viabilisation des zones de retour. C'est notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, hygiène, à la santé et à l'éducation pour encourager les retours des déplacés et réfugiés dans leur milieu d'origine.
Au défi, c'est la recherche de solutions durables. La recherche de solutions durables, on les connaît, les trois solutions durables définies par le Interagency Standing Committee, c'est le retour, l'intégration locale ou l'installation, la réinstallation, la relocalisation.
Notez que cette 7e session du comité d'appui technique vise à examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action régional de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Notez l'arrivée hier après-midi à Goma de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. C'est justement Mary Robinson qui va présider aujourd'hui la réunion de la 7e session du comité d'appui technique du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout autre chose à présent, le nombre des bureaux du programme alimentaire mondial passe de 11 à 6 en RDC suite à la baisse de ses ressources financières, mais aussi à des difficultés logistiques. Annonce faite lundi à Kinshasa par le représentant de cet organisme onusien en RDC. Martin Olsen a par ailleurs précisé que la restructuration du PAM ne signifie pas que cet organisme se retire définitivement ou se désintéresse des régions où ses 5 bureaux sont fermés. Il note que cela procède plutôt de la nouvelle orientation de ses priorités. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Pour des raisons de coûts et ou des raisons de ressources, nous étions forcés de fermer certains bureaux. Vous pouvez imaginer que même si vous avez des ressources en vivres, la logistique au Congo est très chère et donc votre relation entre vivres apportés aux bénéficiaires et les coûts que ça vous amène à coûter hors vivres est souvent très haut, des fois même impossible. Je vous cite un exemple, si vous voulez faire un programme de support nutritionnel dans le Kasaï et vous n'arrivez pas au bon moment pour faire 4 mois d'intervention, vous ne pouvez jamais ensuite avoir l'effet qui est l'effet de 8 mois de plus sur une année. Ça ne veut pas dire qu'on se retire des zones dans le sens de plus être actif. Par exemple, nous avons fermé le bureau de Beni. Beni était une plateforme logistique où nous travaillons maintenant depuis Goma.
J'ajoute que les 5 bureaux qui sont fermés sont ceux de Libenge et Gemena à l'Équateur, Mbujimayi au Kasaï oriental, Beni au Nord Kivu et Dungu en province orientale. En dehors de l'assistance en vivres, le PAM maintient et étend ses 2 autres programmes, à savoir les cantines scolaires et achats pour le progrès. Et puis, les fidèles des différentes confessions religieuses du Bas-Congo appelés à collaborer avec la police nationale en vue de l'éradication de l'insécurité dans la province. Appel lancé lundi à matin dit par le commissaire provincial de la PNC, c'était à l'issue d'un entretien avec l'évêque du diocèse de Matadi. Cet officier de la police sollicite l'implication de la communauté chrétienne pour lutter contre les gangsters d'Ikuluna, Zulu et autres formes de banditisme urbain. Patience Mouchidiav s'est confiée à Derek Lelo de la radio Koukélé.
J'adresse ce message à tous les chrétiens qui la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons maintenant nous mettre au travail au lieu d'être plaintifs. Pourquoi pas dénoncer donc tous ces bandits que nous cachons dans nos parcelles, nos rues, nos quartiers. Nous les connaissons, ce sont nos enfants, nos voisins. Nous devons les dénoncer, on les arrête et on les met à la disposition de la justice pour qu'il y ait la paix des braves règne dans la province du Bas-Congo. J'entends beaucoup collaborer avec l'Église puisque nous devons toujours apprendre avec les autres. Et lorsqu'on parle de l'homme, il y a le respect de la dignité humaine. Avec tous les chrétiens, je crois que tout va marcher. La police, nous ne sommes pas des magistrats, mais nous sommes informés par les autres et ainsi la province du Bas-Congo sera une province calme. Les critiques sont les bienvenus à la police et c'est une façon d'améliorer le travail. Les Kuluna, les Zoulous, les inciviques, les visites domiciliaires, ça doit être une affaire du passé. Nous devons travailler ensemble avec la population.
Monseigneur Daniel Landoumaï, évêque de Matadi, rassure de sa disponibilité à accompagner la police nationale à sécuriser les personnes et leurs biens. On passe à présent au Bandundu, d'où nous apprenons maintenant que la motion de défiance introduite par le député provincial Evra Mouza contre le gouverneur Jean Kamisendu a été rejetée lundi par le bureau de l'organe délibérant. Le rapporteur de cette institution renseigne que 6 des 14 signataires de cette motion ont retiré leur signature avant son examen. Par conséquent, le nombre s'est avéré inférieur au 10e tel qu'exigé par le règlement intérieur. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bandundu, la motion a donc été rejetée avant que son contenu ne soit connu. Maurice Nabahoula est joint par Michel Kifinangoy.
Il y a eu effectivement une motion de défiance déposée contre le gouverneur de la province du Bandundu. Malheureusement, 2 semaines avant, il y avait une question orale adressée à son excellence le gouverneur. Donc hier, le gouverneur était à l'Assemblée provinciale pour répondre à cette question orale. Mais avant cela, le bureau a jugé utile de convoquer la conférence des présidents pour prendre des orientations en rapport avec la motion. Mais à l'issue de l'examen du bureau, nous avons constaté que sur les 14 signataires de la motion de défiance, 6 d'entre eux avaient désisté. ajustée. Le nombre de signataires n'était plus conforme à notre règlement intérieur. Voilà pourquoi le bureau de l'Assemblée provinciale avait depuis hier saisi l'auteur de la question pour déclarer la motion de défiance irrécevable. Il y a ce matin des tentatives de complément des signatures, ce qui ne se fait pas selon le nos et coutumes. Nous devons respecter la procédure.
Et pour finir, retournons un instant au Nord Kivu où les concessions minières de Louéché 1 et 2 en territoire de Rutshuru restent une propriété de la société Kral Metal Congo conformément au décret de feu le président Laurent Désiré Kabila de 1999. Précision apportée par le directeur administratif de cette société minière. Gaston Kangélé réagit aux propos diffusés sur nos antennes la semaine dernière sur la reprise de l'exploitation de cette mine par les investisseurs russes au nom de la société Somi Kivu. Gaston Kangélé s'est confié à Radio Okapi.
La société Somikivu a été déchue par ses droits par le gouvernement congolais. Louéché appartient à la société Kral qui a un décret présidentiel signé par Laurent Désiré Kabila. Signé le 15 novembre 1999, nous avons un décret présidentiel de Somikivu circule avec un arrêté ministériel. Or, l'arrêté du ministre ne peut pas casser un décret présidentiel. Même le premier ministre Muzito avait écrit une lettre au ministre des Mines de nous mettre ensemble les deux sociétés pour connaître les conflits et lui faire un rapport. Le ministre des Mines n'a jamais fait ça. Nous ne voulons pas de problème, nous voulons la paix. C'est lui qui a un degré qui peut casser notre degré. Kral Metal sera d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, Louéché appartient à Kral Metal Congo. D'ailleurs, nous avons même déposé déjà une plainte à la Cour suprême. Donc la société Kral travaille avec un degré présidentiel sur le site de Louéché. Ce n'est pas un arrêté ministériel.
Et c'est la fin de votre journal. Merci infiniment de l'avoir écouté.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.